Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffaine de Ruchini, Clément Salazar, également Juliette Gadeau, qui vient d'arriver en stage aujourd'hui et à qui on souhaite la bienvenue. À la réalisation ce matin, Vincent Abouchard, à la technique, Bruno Gagnère-Fontani. Cette semaine, dans Culture Monde, nous allons nous atteler à l'ambitieux stage de déconstruire l'idée de démondialisation. Mardi, nous discuterons de du clivage entre souverainistes et mondialistes, un clivage devenu central dans le débat politique en France, mais pas seulement, aux États-Unis par exemple notamment. Mercredi, on se penchera sur la révolution numérique et ses effets sur le marché du travail. Jeudi, enfin, nous nous demanderons comment l'économie mondiale peut parvenir à composer avec l'urgence écologique. Aujourd'hui, on va parler d'économie mondiale. On va s'interroger sur les nouvelles formes que prend cette économie mondiale en partant d'un constat, la baisse du commerce mondial, un commerce dynamisé bien sûr par le libre-échangisme, et pourtant ce libre-échangisme n'a peut-être pas autant la cote qu'auparavant, et les accords le favorisant sont de plus en plus difficiles à conclure.
Mieux vaut faire en sorte que nous puissions avertir les uns et les autres que la France ne pourra pas approuver un accord qui aura été ainsi préparé sans les bases indispensables pour une conclusion positive. La France préfère regarder les choses en face et ne pas cultiver une illusion qui serait celle de conclure un accord avant la fin du mandat du président des États-Unis.
Oui, la semaine dernière, lors de la conférence des ambassadeurs, François Hollande a marqué le coup en annonçant l'arrêt des négociations pour le TAFTA, le traité de libre-échange transatlantique. Une décision dans l'air du temps, semble-t-il, puisque la question du libre-échange s'est également invitée dans la campagne présidentielle américaine et elle n'a plus la cote. Chacun avec des réponses différentes, Hillary Clinton et Donald Trump ont pris la défense des laissés-pour-compte de la globalisation des échanges. Une globalisation des échanges d'ailleurs sur le déclin, puisque selon l'OMC, la croissance du commerce mondial stagne à 2,8% et l'OCDE revoit depuis 6 ans maintenant, ses prévisions à la baisse. Pour certains économistes, d'ailleurs, inutile de s'attendre à une véritable reprise du commerce mondial. La stagnation serait un fait durable auquel il faut adapter notre modèle économique. Pour mieux comprendre les évolutions globales de notre économie mondialisée, nous ferons un point sur la Chine qui pâtit fortement de la baisse de la demande mondiale depuis la crise de 2008. Nouvelle stratégie donc pour la Chine qui a décidé d'augmenter les salaires de façon significative. La hausse est telle que le coût salarial unitaire en Chine pourrait rejoindre celui des pays de la zone euro en seulement quelques années. À ce titre, la Chine pourrait ne plus être l'atelier du monde, comme on le dit depuis des années, mais devenir un nouveau marché de 1,4 milliard de consommateurs. Alors est-ce que c'est ça la démondialisation? Comment interpréter ce phénomène de baisse du commerce mondial? Est-ce qu'on a de facto à un phénomène de démondialisation que beaucoup réclament. Et d'ailleurs, c'est quoi la démondialisation? Voilà la grande question qui va nous intéresser ce matin, mais plus généralement toute cette semaine. Pour ce faire, nous avons invité un économiste, bien sûr, El Mohoud. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine, auteur notamment d'un ouvrage qui paraît régulièrement, qui est revu régulièrement, Mondialisation et délocalisation des entreprises, dans la collection Repères à la découverte. Je crois qu'il y a d'ailleurs une nouvelle édition qui va arriver très bientôt.
Bien sûr, oui.
Alors, vous avez entendu la semaine dernière le secrétaire d'État au commerce extérieur, Matthias Fekel, annoncer que la France demanderait à la Commission européenne en septembre l'arrêt des négociations sur le TTIP. Dans son sillage, le président lui-même, on l'entendait, a confirmé cette voie. Du côté de la Commission, la réaction a été assez rapide, puisque Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques, a déclaré qu'il n'était pas pertinent, je cite, de suspendre les négociations. Quel regard est-ce que vous portez sur ce qui, quand même, apparaît comme un coup d'arrêt pour le libre-échangisme et un recul aussi quand même dans, a priori, hein, dans l'approfondissement, le développement des échanges commerciaux, les échanges internationaux?
Il y a deux choses. Il y a la question de la réaction du gouvernement et de la Commission européenne à ce traité et à la volonté affichée de l'arrêter. Derrière cette décision, il y a à la fois un aspect structurel, disons, d'observation des difficultés liées au commerce mondial. Je rappelle qu'aujourd'hui même, les États-Unis viennent de prendre une mesure contre l'acier chinois avec un droit de 522% parce qu'ils ont accusé la Chine d'antidumping. Donc on est dans un monde où effectivement, en dépit de ce que le G20 a pu dire juste après la crise du subprime pour empêcher la résurgence du protectionnisme. On est dans un monde où le protectionnisme, les mesures de protection ont repris. Donc il y a quelque chose de structurel, de mieux comprendre ce qui se passe. Il y a quand même, il faut dire, une OMC qui existe, un démantèlement des échanges, des barrières aux échanges qui se poursuit au sein de l'OMC. Et ce pilier supplémentaire que constitue le traité transatlantique arrive dans une période où les populations sont tout à fait en interrogation. Et donc, il y a un second aspect, disons, à cette réaction que je vois comme un aspect tactique lié à la période politique qui est très, très compliquée. Je dis que c'est un aspect tactique, en fait, pour un peu aller dans le sens du vent, parce que il n'y a pas de proposition d'un modèle alternatif. Et c'est ça qu'on peut un peu reprocher à cette prise de position purement, disons, un peu sous forme d'un baroud d'honneur, consistant à dire stop, sans projet alternatif. Or, il faut un projet alternatif, c'est ça.
Il n'y a pas de projet alternatif, vous avez raison, mais vous parliez de l'OMC, vous avez raison, il y a l'OMC, et en même temps, les négociations au sein de l'OMC sont arrivées à un échec. On n'arrive plus, justement, à se mettre d'accord et à trouver ce qui serait un grand accord commun qui mettrait tout le monde, finalement, sur le même plan. Et on voit là aussi que les traités, disons, bilatéraux, là, par exemple, Union européenne, États-Unis, mais on peut aussi penser à celui qui concerne la région Asie-Pacifique, sont sinon à l'arrêt, en tout cas remis en cause. Est-ce que c'est pas ça le début de la démondialisation, ce qui va nous permettre aussi peut-être de défricher cette idée de démondialisation, savoir qu'est-ce que c'est, de quoi on parle quand on parle de démondialisation?
Alors, écoutez, à mon avis, il y a deux choses dans le terme démondialisation. Il y a un aspect positif, c'est-à-dire d'observation des faits, et on va y venir. C'est donc ce dont vous avez commencé à en parler très justement, cette histoire de réduction du commerce mondial par rapport à la croissance mondiale. C'est un phénomène qui est très marquant. Hein. Le taux de croissance du commerce mondial est beaucoup plus faible que celui de la croissance, qui n'était pas du tout le cas dans les années précédentes, la crise du subprime. Donc on est dans une période de reflux des échanges mondiaux, bien entendu. Ça, c'est un phénomène qu'il faut analyser, sur lequel je voudrais revenir. Et puis, il y a un aspect normatif qui est un aspect de politique. Mmh. Et souvent, on confond les deux. Or, quand on regarde les aspects normatifs, c'est-à-dire effectivement le libre-échange, les mesures de protection, on n'est pas plus dans des périodes, si vous voulez, il y a l'effet de la crise, bien entendu. On n'est pas plus dans des périodes de renationalisation, si on entendait la démondialisation comme un phénomène de renationalisation des échanges, que nous l'avons été dans les périodes précédentes. Il y a un reflux qu'il faut analyser. Alors, il me semble que, si vous voulez, sur la démondialisation, c'est un peu un aspect velléitaire qui l'emporte sur l'aspect réel. La mondialisation, c'est quoi d'abord ? D'abord, la mondialisation, c'est cinq composantes. C'est le commerce international, bien entendu. Et là, on voit bien apparaître un effet de reflux dont je viens de parler. Il y a les investissements directs étrangers. Il y a la finance et les capitaux à court terme. C'est la troisième composante. Il y a une quatrième composante qui sont les connaissances et les technologies, les brevets, etc. Puis une cinquième composante qui sont les migrations internationales. On pourrait parler de réels mouvements de démondialisation au sens de renationalisation des composantes de la mondialisation si toutes ces composantes refluaient sur les bases nationales. Ça n'est pas ce que l'on observe.
Et d'ailleurs, sur les migrations internationales, pardon, je crois qu'elles n'ont jamais été aussi importantes. Je crois qu'on est à 230 millions de migrants chaque année, je ne me trompe pas.
Non, pas chaque année, en stock. On est à 250 millions de migrants au niveau mondial.
D'accord.
Ça a augmenté, bien entendu. Ça continue à augmenter en dépit des restrictions qui pèsent sur les migrations.
Non, mais je veux dire, le stock n'a jamais été aussi important, je ne me trompe pas.
Ouais, ça s'est accru.
C'est une augmentation constante.
Tout à fait, absolument. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans une période de renationalisation sur le plan véritablement, disons, de l'observation des faits. En revanche, il y a quand même quelque chose qui est très intéressant à essayer de regarder, c'est sur ce qui se passe sur le commerce. Ben, effectivement, ce qui se passe sur le commerce, il y a une étude récente du CEPI qui l'a montré, du Centre d'études et de prospectives internationales, vous avez eu effectivement une réduction des échanges mondiaux après la crise des subprimes qui s'est poursuivie, qui continue à se poursuivre, qui est pas seulement dû à des effets conjoncturels liés à la croissance affaiblie, qui est dû à des aspects structurels. Et ces aspects structurels, c'est là où on approche d'une définition à peu près correcte de la démondialisation, c'est le fait qu'une partie de la baisse de la croissance mondiale est liée à ce qu'on appelle le commerce induit par la fragmentation des chaînes de valeur. Vous savez, quand iPhone est décomposé en morceaux et qu'on en place des morceaux en Chine, en Thaïlande, etc., et que ça donne lieu à des commerces de biens intermédiaires, de morceaux de biens. Effectivement, là, on a dans cette étude, on montre que une partie de du reflux du commerce mondial est liée au fait que les entreprises ont tendance à modifier le déploiement de leurs activités, de la fragmentation de leur chaîne de valeur à l'échelle mondiale sur des bases régionales, pas forcément nationales. C'est pour ça que souvent on confond démondialisation et renationalisation, mais en réalité, la régionalisation des échanges l'emporte sur la renationalisation.
D'accord. Donc si je comprends bien, en gros, le ralentissement du commerce mondial, il est dû en partie à une forme de re-régionalisation.
Relocalisation des processus de production à proximité des marchés, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on va pas aller en Chine ou aux États-Unis ou ailleurs pour accéder au marché. C'est un peu ce que vous disiez lorsque vous invoquiez la hausse des coûts salariaux unitaires en Chine. Et donc, on a une espèce de recomposition, si vous voulez, régionale sur des bases à proximité des marchés. Du déploiement des entreprises, au lieu de délocaliser en Chine ou en Thaïlande, etc., on a tendance à relocaliser la production à proximité des marchés pour être beaucoup plus flexible, etc.
Alors là, il y a une question qui me vient tout de suite, et puis ensuite je vous laisserai poursuivre, et puis ensuite je voudrais qu'on vienne à la question du G20, parce que rappelons-nous que le G20 a commencé et qu'il y a des choses à dire tout autour de ça, mais vous parlez de re-régionalisation, c'est pas évident à dire. Il y a quand même un facteur qu'on pourrait rappeler qui pourrait nous faire penser qu'il n'y a pas de raison finalement qu'on aille dans ce sens-là, c'est le prix du pétrole, parce que évidemment tout ça va avec les échanges pour échanger, faut-il encore pouvoir transporter toutes ces marchandises. Or, le prix du pétrole est quasiment au plus bas, hein, en tout cas sur les 10-15 dernières années, il n'a jamais été aussi bas. Alors comment expliquer ce phénomène, alors même que justement, a priori, le transport est moins cher qu'avant, j'allais dire.
D'accord. Alors en fait, justement, on est passé de ce qu'on a peu à peu on a pu appeler l'hypermondialisation, justement, avec un éclatement tous azimuts des chaînes de valeur mondiales, à une période de recomposition, à cause justement de l'épuisement, de l'essoufflement de deux moteurs de l'hypermondialisation. Un, vous avez eu une baisse des coûts de transport remarquable depuis longtemps, mais surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, à cause du progrès technique dans les transports, et des différences de coûts salariaux unitaires avec les pays d'Asie extrêmement fortes. Ces deux facteurs qui ont poussé les entreprises à délocaliser, à déployer leurs activités à l'échelle mondiale, se sont essoufflés depuis les années 2000. Donc on a eu, au contraire, une hausse des coûts de transport dans les années 2000, en particulier le transport maritime, et on a eu en même temps une hausse des coûts salariaux unitaires. Donc on est encore dans la poursuite de ce mouvement d'essoufflement des deux moteurs de l'hypermondialisation. Alors ça ne veut pas dire pour autant que ceci va être totalement poursuivi, parce que effectivement, comme vous le dites, récemment, depuis 2-3 ans, on a de nouveau une réduction du cours du prix du pétrole en particulier, donc du coût de l'énergie, qui peut redonner un avantage à la délocalisabilité des processus de production lointaines. Mais il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est qu'en même temps, vous avez des coûts salariaux unitaires qui augmentent comme jamais ils n'ont augmenté. C'est-à-dire, coûts salariaux unitaires, c'est en fait le rapport entre la productivité et les salaires. Hein. Et quand les salaires augmentent plus vite que la productivité, le coût salarial unitaire par rapport au coût salarial, si vous voulez, unitaire européen ou américain, devient presque nul quand on regarde ce qui se passe en Chine. Donc là, les entreprises, en dépit de cette réduction relative du cours des matières premières et du prix de l'énergie, les entreprises ont plutôt tendance à rechercher une rationalisation des processus de production, une automatisation croissante, une robotisation des processus de production, plutôt que aller accéder de manière lointaine à une main-d'œuvre abondante à bas prix, dont par ailleurs, les coûts salariaux unitaires sont en train d'augmenter. Et ceci a été déterminant lors des chocs qu'on a eus. Vous savez, quand il s'est passé ce qui s'est passé au Japon avec la crise nucléaire, vous avez le tsunami, vous avez eu toute une série de chocs qui ont fait que le fait que les entreprises étaient trop loin des processus de production intermédiaires, des composants intermédiaires, ça a un peu fait réfléchir les entreprises. Et il n'y a pas que seulement des coûts de transport. Et les coûts de transport ne comptent pas beaucoup pour les activités non pondéreuse. Prenez de l'électronique, le coût de transport est assez marginal. C'est important pour les productions volumineuses, l'automobile, la mécanique, etc. Et là, pour ce qui concerne toute une série d'activités dont on modularise en morceaux les processus de production, il est moins rentable de les délocaliser très loin, et donc on a tendance à les rapatrier, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en Europe, et ceci, c'est un phénomène qui ne traduit pas un essoufflement finalement des effets, et ça, c'est, j'aimerais bien qu'on discute de ça, des effets de la mondialisation, mais un changement de déploiement des entreprises à l'échelle mondiale. C'est-à-dire une recomposition, effectivement, géographique des processus de production, qui ne signifie pas, c'est là où on pourrait faire une erreur, qui ne signifie pas pour autant que l'effet de la mondialisation ne continue pas à s'approfondir.
On va revenir, hein, bien sûr, sur les effets de la mondialisation, mais revenons peut-être un instant sur l'actualité. Donc, il y a ce fameux G20 qui se tient à Hangzhou, donc en Chine. François Hollande y est allé. Il a distillé un certain nombre de messages au monde. Alors, il a parlé évidemment de l'accord de la COP21. On a vu que les États-Unis et la Chine l'avaient ratifié, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, il a dit, par exemple, la France est pour une mondialisation, mais à condition qu'elle soit régulière, qu'il y ait des principes, des normes, notamment pour l'environnement, pour le social. Il a notamment, par exemple, parlé des paradis fiscaux. C'est assez intéressant parce qu'en réalité, on a le sentiment quand même qu'au sein de ce G20, il est un peu seul à plaider cette mondialisation régulée. Vous ne trouvez pas ?
Oui, parce que...
On va parler des paradis fiscaux, parce que oui, c'est au cœur de tout ça, mais...
Mais c'est une question tout à fait centrale. C'est en effet, c'est pour ça que je dis qu'il y a un aspect aussi un peu tactique dans cette histoire du TAFTA. Le TAFTA, en fait, ça va aller beaucoup plus loin que ce que, effectivement, l'OMC permet de faire. Hein. Donc, il y a aussi, si on signait ce traité tel qu'il est, en effet, ça aboutirait à aller vers... une libéralisation complète, y compris dans le domaine des services, dans le domaine de la culture, dans toute une série de domaines, et surtout un droit aux entreprises à remettre en cause les possibilités pour des États de réguler justement cette mondialisation. Donc il y a ce risque-là qui est important. Et si vous voulez, il me semble que ce qui est important, c'est de comprendre que pour les États-nations, les marges de manœuvre à reconquérir dans la fiscalité internationale, dans les problématiques de fiscalisation des profits, etc., est bien plus importante en termes de possibilités de gains que ça représente, et de gains en termes de marge de manœuvre, que la question du commerce stricto sensu. Donc il me semble que réintroduire dans le cadre du G20 cette question des paradis fiscaux est une question tout à fait centrale. Maintenant, est-ce qu'il en aura...
Sauf que visiblement, il n'y a pas l'écho qu'on pourrait attendre. Regardez par exemple l'affaire récente, l'affaire Apple, puisque la Commission européenne, on l'a entendu, a décidé d'imposer à Apple, donc... une entreprise mondialisée s'il en est, hein, El Mohoud Mohoud. Le remboursement de 13 milliards d'euros au fisc irlandais. La Commission reproche à l'entreprise d'avoir passé des accords fiscaux spécifiques avec Dublin, c'est-à-dire en gros 2% d'impôt sur les profits, alors que normalement le taux officiel irlandais est un peu plus de 10, je crois, à 12,5%. Son PDG d'ailleurs, Tim Cook, a parlé d'une foutaise politique absolue. Il cherche à faire évidemment de l'Irlande dans tout ça un allié dans son offensive contre Bruxelles. Alors on pourrait se dire que si cette amende évidemment était finalement payée, ce serait une véritable révolution qui aura un impact considérable, on l'imagine, sur les échanges internationaux, sur la mécanique de la mondialisation. Sauf qu'on a appris vendredi dernier que le gouvernement irlandais avait décidé de faire appel de cette décision de Bruxelles. Donc on voit très bien que Dublin s'allie à Apple sur cette question et qu'elle n'est pas du tout prête à envisager une quelconque refonte de son système fiscal. On voit bien là aussi qu'il y a cette compétition dans les régimes fiscaux qui pose problème.
Oui, et là c'est carrément européen.
Absolument.
Donc, si vous voulez, c'est même pas la question du G20, c'est la question de la manière dont on a construit effectivement l'Union européenne et l'absence de régulation, en particulier d'harmonisation fiscale au sein de l'Europe, qui est tout à fait nuisible au projet européen. Et je crois que là, on est en pleine illustration de ce que pourrait être à l'échelle mondiale une coordination plus grande des États, une réelle coordination.
Mais déjà, on n'y arrive pas au niveau de l'Union européenne.
Oui, mais, on n'y arrive pas. Je crois que la volonté politique manque, mais que il n'y a pas de choix. Ou bien on va aller vers un processus de désintégration de l'Europe, hein, avec un scénario de repli national
qui, d'une certaine manière,
fort,
a commencé
avec le Brexit et qui peut conduire des carrément à une sortie de pays membres de la zone euro, ce qui serait plus compliqué que la sortie de la Grande-Bretagne qui n'était pas dans la zone euro. Et donc on pourrait avoir ce scénario de repli total, ou bien on pourrait avoir une alternative. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'alternative, parce qu'il y a une alternative à une construction européenne.
Laquelle ?
Plus solide, celle qui redonnerait plus de pouvoir au Parlement européen, celle qui permettrait d'avoir comme volet prioritaire, non pas des objectifs un peu sournois à long terme de d'économie de la connaissance, etc., etc., mais avoir des objectifs réellement d'harmonisation sociale, d'harmonisation fiscale, et de remettre l'Europe sur ses pieds.
Sauf que vous le voyez bien, c'est pas ce que souhaitent les États membres. On le voit bien avec la montée des populismes. On voit bien que les pays sont bloqués.
Oui, mais justement, une façon de répondre au populisme n'est pas d'aller dans le sens du vent, mais d'aller au contraire dans le sens de rétablir des marges de manœuvre réelles en termes fiscales, en termes sociaux, et reconstruire une Europe sociale et une Europe, disons, fiscale harmonisée. Ça devrait être la priorité des priorités des gouvernements.
On parlait du Brexit. Est-ce que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, c'est quelque chose qui ressemble à un facteur d'une peut-être démondialisation, même si une fois encore c'est un mot fourre-tout dans lequel on ne sait pas exactement tout ce qu'on met, mais est-ce que ça va dans ce sens-là?
Non, je crois pas du tout. Là, je veux dire, là, on mettrait tout dans la démondialisation. Là, il s'agit d'un phénomène plutôt de sortie encore qui n'est pas encore réalisé sous nos yeux, mais qui va l'être, de institutionnel d'une zone d'intégration régionale complète. Mais pas si complète que ça pour la Grande-Bretagne, puisque la monnaie et Schengen n'étaient pas présents. Donc c'était quand même une insertion dans la zone euro qui était relativement plus limitée que celle des autres. Donc on peut pas parler de démondialisation, on peut parler de sortie, d'autonomisation institutionnelle relative de la part de la Grande-Bretagne, mais je crois qu'on est loin de ce que pourrait être une mesure réelle de ce qu'est la démondialisation.
Juste avant le début du G20, la directrice du FMI, Christine Lagarde, publiait une note dans laquelle elle expliquait, je la cite, « Sans action percutante, le monde pourrait souffrir d'une croissance décevante pendant longtemps. » On va vers un monde avec une croissance molle, voire même carrément de la décroissance, je vais vous faire.
Oui, ben, il y a un vrai débat chez les économistes là-dessus. Effectivement, certains économistes n'hésitent pas à dire qu'on va rentrer dans une phase de croissance molle, très faible, proche de 1% dans l'ensemble des pays du monde industriel, disons, du monde industrialisé. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'augmentera pas au niveau mondial en moyenne, puisque l'Afrique est supposée connaître une croissance plus forte et des pays d'Asie également. Donc, mais le fait que le modèle...
C'est votre avis? Vous pensez qu'on va vers une ère de la croissance molle?
Je pense qu'on va vers une ère de la croissance où la robotisation, l'automatisation des processus de production, la diffusion massive du progrès technique, en réponse justement à toutes ces difficultés que peuvent rencontrer les entreprises ça et là, eh bien ceci va se traduire par en effet des points de croissance plus faibles, avec un modèle, un paradigme si vous voulez, capitaliste, fondé sur une croissance plus faible. On ne retrouvera pas les taux de croissance de 5-6% de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, fondées sur une consommation forte, etc.
Donc, mais certains vont le vouloir. Certains regrettent évidemment ce temps des belles croissances. Est-ce que du coup le contexte nous laisse penser peut-être que le temps est venu d'augmenter les dépenses publiques? De repenser des plans de relance économique.
Peut-être qu'on pourrait avoir la
tentation. C'est les propositions qu'on voit d'ailleurs du côté des États-Unis. Hein. On parlera peut-être des États-Unis dans un instant.
Tout à fait. Il y a des possibilités de rattraper. Il y a des marges de croissance de la demande dans toute une série de domaines, que ce soit le logement, que ce soit effectivement, y compris même la culture, si on pouvait aller plus loin. Il y a toute une série de gens qui sont exclus d'un certain nombre de domaines de consommation. Donc il y a des marges de récupération et de croissance. Mais de là à aller vers un modèle de croissance auto-centrée, fondé sur une relation vertueuse entre gain de productivité, salaire réel et croissance de la demande, comme on a pu le connaître durant la période keynésienne, qui allait de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en gros à la fin des années 70, 80, début des années 80, ça on peut en douter. De même que on ne sait pas encore très bien l'évaluer, le mesurer, mais toute cette économie dite du partage, qui n'est pas réellement une économie du partage, mais tout de même, est-ce que ça va pas finalement se diffuser davantage encore dans le futur, et est-ce que ça va pas être un élément là de réduction aussi des marges de déterminant de la croissance?
Tiens, on parlait de plan de relance à l'instant. Jusqu'ici, l'économie mondiale n'a pas retrouvé ses niveaux d'avant la crise de 2008. Est-ce que ça veut dire que les différents plans de relance qui ont été mis en place un peu partout dans le monde n'ont pas été correctement menés, de façon très générale?
Oui, c'est tout à fait... à part les États-Unis, il y a eu vraiment un effet dont on parlera tout à l'heure peut-être. La distribution d'argent... de liquidité incroyable au niveau européen n'a pas du tout servi à une relance de la croissance, comme vous l'avez pu le dire, vous avez pu l'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire sur les biens publics, sur les infrastructures, etc. Mais elle a plutôt servi les marchés financiers. Donc on est dans un paradoxe où l'argent coûte absolument pas cher, mais où cet argent qui coûte absolument pas cher alimente les marchés financiers au lieu d'alimenter les secteurs d'infrastructures, de transport, de télécom, d'infrastructures pour relancer une économie fondée, par exemple, sur l'écologie ou la croissance verte, etc. Donc, on est quand même dans une période assez paradoxale où il est plus facile d'investir, mais où l'investissement ne porte pas réellement sur les secteurs de croissance.
Alors, justement, vous parlez d'investissement parce que outre effectivement les échanges, le commerce international, le commerce de marchandises, il y a un autre élément, vous le disiez tout à l'heure en début d'émission, qui produit finalement de la mondialisation, c'est les investissements directs étrangers. En quelques mots, quels sont leurs niveaux aujourd'hui et globalement, est-ce qu'ils ont diminué ces dernières années et est-ce qu'on a observé une forme de recomposition du paysage en matière d'IDE? Est-ce que là aussi, on a une re-régionalisation dans les flux d'investissements directs étrangers?
Alors, sur les investissements directs étrangers, il y a deux choses. Il y a un aspect qui est lié à l'accès au marché. On fait des fusions-acquisitions, on rachète une entreprise au Japon pour conquérir le marché asiatique. On fait la même chose en Chine, etc. Donc il y a un aspect accès au marché, ça se poursuit. Et il y a même une relance des investissements, puisque l'année 2015 a marqué une augmentation tout à fait significative des investissements, après un reflux depuis la crise des subprimes, un reflux net des investissements directs, qui est lié au fait que les investissements passent très largement par des fusions-acquisitions, et quand vous avez une chute des cours boursiers, eh bien vous avez un effet valeur, en quelque sorte.
Là, ça repart
pour des raisons d'accès au marché en particulier. Et ça repart davantage vers les pays développés, entre eux, ce qui était toujours le moteur fort des investissements directs, vers les pays émergents à forte croissance, qui restent, même si leur croissance a baissé, qui restent tout de même avec des fortes croissances, la Chine en particulier. Et puis, ça diminue en Afrique. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des zones qui connaissent plutôt une poursuite de leur reflux dans les investissements directs étrangers. Donc, l'aspect accès au marché, ça continue à être une dynamique forte de la mondialisation. En revanche, l'investissement direct lié à la délocalisation pour rechercher des coûts de main-d'œuvre bas, donc justement, ce dont on parlait tout à l'heure, la fragmentation des chaînes de valeur pour réimporter le produit final pour qu'il soit consommé en France ou en Europe, ça a tendance à diminuer. Et ça a tendance à diminuer, à se régionaliser suivant ce que j'avais appelé tout à l'heure la recomposition de la mondialisation sur des bases régionales à proximité des marchés.
Le déclin du commerce mondial, de point la démondialisation en question, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On est avec Elmo Mouhoud, économiste, auteur de Mondialisation et délocalisation des entreprises. On va prendre la direction de la Chine depuis quelques années et surtout depuis 2010. La Chine connaît un phénomène d'augmentation des salaires. En effet, les grèves, se sont beaucoup multipliées depuis.
Nous ne gagnons que 90 euros par mois et nous n'avons aucune assurance sociale. Nous réclamons un salaire de 130 euros, 150 euros avec l'assurance. Avec ça, il faut qu'on paye notre logement et qu'on ait de quoi vivre.
Je connais bien mes droits et l'usine ne les respecte pas. Je peux les traîner devant la justice.
Ces derniers temps, ça devient difficile de recruter des ouvriers. Ils demandent de plus en plus à vérifier les contrats et s'il y a bien une assurance sociale complète. Le salaire et les coûts de production ont augmenté. Du coup, certains patrons, comme moi, pensent à délocaliser, à partir vers le Vietnam ou le Cambodge.
Voilà, pendant un moment, il n'y avait pas une journée sans qu'il y ait des grèves organisées par des ouvriers exigeant des hausses de salaire, des ouvriers, des chauffeurs de bus, des mineurs, ce qui évidemment a donné à certains patrons des envies de délocalisation. On va en parler. Bonjour Jean-Louis Roca.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à Sciences Po, série CNRS, et puis vous êtes auteur d'une sociologie de la Chine qui était parue à la découverte. Si ces augmentations sont le résultat, augmentations de salaires sont le résultat de mobilisation sociale, on l'entendait là un petit peu, ça correspond aussi à une stratégie du gouvernement, c'est-à-dire que Pékin considère qu'il est bon pour son économie et même nécessaire d'augmenter ses salaires, Jean-Louis Roca.
Oui, alors ça ne surprendra pas le sociologue de voir qu'il y a une espèce de convergence en fait face à une même situation, convergence de plusieurs phénomènes. Il y a effectivement ce phénomène de revendication plus importante, plus radicale chez les ouvriers, avec un changement de génération qui est assez net aussi, avec des jeunes beaucoup plus au courant de ce qui se passe, des gens qui sont parfois nés même maintenant en ville et qui se mettent à travailler effectivement dans le secteur industriel, mais aussi cette nouvelle stratégie qui a été mise progressivement en place par le gouvernement chinois et qui consiste en fait à faire tirer la croissance par la consommation intérieure. Donc on a ce phénomène effectivement de volonté de réduction des investissements étrangers en Chine, qui ne serait plus donc le facteur prioritaire, on pourrait dire, de la croissance économique avec les exportations. Donc on a comme par hasard évidemment des grèves et des manifestations et des augmentations de salaires, surtout par exemple dans les entreprises étrangères ou dans les entreprises qui travaillent pour des entreprises étrangères à l'exportation. Alors que par exemple les entreprises chinoises, elles sont beaucoup moins marquées par ces phénomènes. Donc il y a très clairement une espèce de volonté aussi que finalement ce soit d'une certaine façon les étrangers ou en tout cas les entreprises très directement à l'exportation qui payent d'une certaine façon cette nouvelle stratégie et permettre donc une croissance de la consommation.
D'accord, donc ça ne concerne pas tout le monde, c'est pas aussi général qu'on pourrait le penser. Et évidemment, c'est d'abord et avant tout les salaires minimums qui ont été augmentés. Est-ce que les autres en ont profité aussi? Est-ce que les salaires un petit peu plus élevés? Est-ce que les classes moyennes également, par exemple, gagnent davantage depuis quelques années, Jean-Louis Roca?
Eh bien, on a une tendance aujourd'hui, on a simplement une tendance, hein. C'est difficile évidemment de déterminer ce qui se passera à l'avenir, mais on a plutôt une tendance à un certain recul, à une certaine stagnation des salaires des classes moyennes. On voit ça notamment à partir de la difficulté que les jeunes diplômés de l'université ont pour trouver un travail, une diminution constante d'année en année quant à au premier salaire en fait du diplômé. Par exemple, quand il y a eu des estimations sur le taux de chômage des jeunes après 6 mois de diplomation, comme on dit, et c'est quelque chose qui est de l'ordre de 25 à 30%. Donc on trouve de plus en plus de jeunes qui ont des difficultés à trouver du travail. Alors ça touche surtout les diplômés d'université de seconde et troisième catégorie et dans des matières, disons, qui sont évidemment moins porteuses que le commerce, le droit, etc., etc. Mais ça touche quand même l'ensemble, on pourrait dire, du spectre des jeunes diplômés. On voit aussi que il y a quelques années, c'était très facile de changer de travail. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et les jeunes ont par exemple plus de difficultés pour suivre l'élévation de la progression de l'immobilier. Or, acheter un appartement, ça reste quand même aujourd'hui en Chine un espèce de signe de la classe moyenne.
Alors, vous disiez c'est particulièrement difficile pour les jeunes diplômés qui ont du mal à accéder au marché du travail. Quid des autres? Regardons un exemple. On a appris très récemment que Foxconn, on la connaît très bien cette entreprise, une entreprise taïwanaise qui fabrique des produits Apple, qui emploie un peu plus d'un million de personnes en Chine, a fait passer ses effectifs d'une de ses usines chinoises de 110 000 à 50 000 employés. Alors, au lieu d'employer des individus, on va tout simplement utiliser des robots qui vont faire leur travail à leur place. Est-ce que ça veut dire que la Chine se dirige petit à petit vers une société du chômage et du précariat?
Elle s'oriente vers une modernisation de son appareil productif. Qui dit modernisation de l'appareil productif dit évidemment mécanisation, automatisation, augmentation des salaires pour des raisons à la fois politiques, sociales, économiques que l'on vient de voir.
Et donc chômage.
Et donc, bien évidemment, chômage, parce que là aussi, la Chine connaît aujourd'hui un phénomène de délocalisation. Hein. On critiquait les Chinois parce qu'ils volaient nos emplois il y a quelques années. Aujourd'hui, les Vietnamiens, les Cambodgiens, voire les Éthiopiens volent les emplois des Chinois. Donc, effectivement, dans à peu près tous les domaines, on pourrait dire que ça soit l'emploi, disons, non qualifié que l'emploi qualifié, on a des tensions extrêmement fortes sur le marché du travail. Alors, bon, pour l'instant, disons qu'il y a des marges en ce qui concerne l'emploi non qualifié parce que, malgré tout, il y a une politique quand même qui est très limitée, notamment dans les services en ce qui concerne l'automatisation, l'augmentation de la productivité du travail, etc., et qu'on continue à garder quand même un appareil productif pas très productif pour le coup, pour empêcher qu'il y ait trop de chômage. On a aussi le fait que l'on a l'Ouest chinois qui se développe malgré tout et qui peut absorber un certain nombre de travailleurs, mais à l'avenir en tout cas, enfin moi je pas simplement à l'avenir puisque je tire la sonnette d'alarme d'une certaine façon depuis quelques années quant à la situation de l'emploi en Chine, et il me semble que la situation de l'emploi en Chine est de plus en plus compliquée, de plus en plus précaire, et le jour où la Chine sera obligé pour des raisons évidentes à améliorer par exemple la productivité du travail dans les services, là il y aura bien entendu des tensions sur le marché du travail très très fort.
Toute petite question avant de donner la parole à notre invité ici en plateau, est-ce qu'on peut dire que cette robotisation du secteur industriel, en tout cas d'une partie de ce secteur industriel, c'est aussi une conséquence des revendications des travailleurs qu'on entendait juste avant? Est-ce que c'est aussi ça?
Évidemment, enfin, historiquement, hein, quand on regarde ce genre, parce que la Chine n'est pas la première nation à être confrontée à ce genre de choses, quand on regarde l'histoire, on voit bien que là aussi, il y a une espèce de convergence, c'est-à-dire il y a aussi un discours sur... regarder comme ces pauvres gens étaient exploités, faisaient des travaux pénibles, dangereux, polluants, avec un très très fort taux de maladies professionnelles, la robotisation, les modes de production propres, l'amélioration aussi hein, de l'environnement vont conduire à une meilleure vie, etc. Donc ça fait partie un peu aussi du processus, on pourrait dire global, de la modernisation sociale, économique et politique de la Chine, que ce discours sur voilà, l'amélioration des conditions de travail et le fait que les travaux aujourd'hui les plus difficiles seront faits par des machines.
El-Mahoud Mahoud, réaction oui, sur ce cas chinois.
C'est vrai que c'est une tendance forte du capitalisme que de remplacer du travail par du capital, c'est-à-dire d'augmenter, de substituer du capital au travail, dès lors que c'est possible. Et en particulier dans le cas de la Chine, le pays est arrivé à un tel... niveau de croissance aujourd'hui et de développement que il y a les tensions sur le marché du travail et la hausse des salaires des salaires unitaires incite aussi comme dans les pays finalement occidentaux comme les entreprises françaises comme les entreprises américaines incite à introduire des robots et des marges sont extrêmement élevées hein, on estime à plus de 400 000 robots qui seront installés en Chine en 2017 c'est pratiquement 10 fois plus qu'en France hein, donc c'est un mouvement extrêmement fort afin effectivement de rationaliser les processus de production et de réduire la part des coûts salariaux dans le coût total de fabrication. Donc je pense que ça, oui. C'est quelque chose qui va se poursuivre. Quand on regarde ça du point de vue des entreprises étrangères, il y a deux choses. Les entreprises qui viennent pour accéder au marché chinois. Peugeot qui veut développer ses ventes de voitures sur le marché chinois et sur le marché asiatique. Celles-ci, elles n'auront pas la tentation de revenir pour fabriquer en France et réexporter, c'est complètement absurde. Elles vont simplement introduire des équipements automatisés programmables, comme l'ont fait les entreprises européennes, afin de rationaliser le processus de production et d'avoir des coûts unitaires qui baissent non pas par l'usage d'une main-d'œuvre extensive, mais par l'usage d'une main-d'œuvre d'un processus de production rationalisé, robotisé, flexible, etc. S'agissant des entreprises qui délocalisées pour fragmenter leur chaîne de valeur, là, le fait que les coûts salariaux unitaires en Chine augmentent considérablement, on l'a vu tout à l'heure, par rapport aux États-Unis, l'écart est extrêmement faible maintenant en termes de coûts salariaux unitaires, même si les niveaux de salaire demeurent beaucoup plus bas en Chine qu'ils ne le sont aux États-Unis, bien sûr. Mais en termes de coûts salariaux unitaires, qui est la variable déterminante, si vous voulez, pour une entreprise, eh bien, ça n'est plus du tout rentable d'aller fabriquer en Chine. Eh bien, si on peut automatiser les processus de production, on va les recomposer. Les relocaliser aux États-Unis. Et les États-Unis sont devenus maintenant une plateforme d'assemblage de production automobile tout à fait compétitive pour réexporter même vers le Japon ou vers l'Asie. Donc, si vous voulez, il y a un phénomène de ciseaux en quelque sorte. On continuera toujours à aller en Chine en rationalisant la production pour accéder au marché chinois parce que c'est là que quand même la croissance demeure forte, même si ça se ralentit. Et de l'autre côté, eh bien, on l'utilisera moins comme une plateforme de réexportation vers les pays d'origine en Europe ou aux États-Unis.
C'est exactement ça, la re-régionalisation.
Exactement.
On comprend très bien. On sait que le défi pour Pékin, et puis je vous redonne la parole, Jean-Louis Rocard, mais El-Mahoud Mahoud, le défi pour Pékin, c'est bien sûr d'engager cette transition, une transition de son modèle qui est basée sur l'expérience. En tout cas, jusqu'ici, qui était fondé sur les exportations, vers ce modèle fondé sur la consommation intérieure, la consommation domestique, sur les services. De façon très générale, quel bilan vous faites justement sur la manière dont Pékin réoriente son économie ? Est-ce que sa stratégie vous semble pertinente, efficace ?
Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de la Chine, donc je parlerai plutôt de la manière dont je vois la position, disons, de cette économie dans la mondialisation. Et il me semble que... certains disent, par exemple, que la Chine est arrivée, je ne sais pas ce qu'en pense notre collègue...
On va lui demander.
Un retournement de Lévis, c'est-à-dire une situation dans laquelle, si vous voulez, la demande de travail devient pratiquement supérieure à l'offre de travail. Ouais. Donc on a une situation de tension extrêmement forte, en particulier dans le rapport entre les provinces chinoises et les zones côtières où se trouve l'industrie. Je pense que la Chine est bien consciente d'une situation dans laquelle continuer à exporter des biens qui dépendent énormément des importations de biens intermédiaires, c'est-à-dire en fait importer de la valeur ajoutée pour exporter, c'est relativement limité. Donc développer un marché local, repenser la manière dont les provinces intérieures rentrent dans l'économie chinoise, ça me paraît être le tournant de la Chine fondamentale. Maintenant, je ne peux pas vous dire si ceci est un modèle qui va réussir ou pas, mais on est dans cette transition-là que d'autres pays ont connu. Hein. Mmh. Sauf que là, on a quand même une taille qui est extraordinaire et les effets peuvent être beaucoup plus lents en termes d'ajustement.
Jean-Louis Rocard, votre regard justement sur cette question, cette réorientation de l'économie chinoise, est-ce qu'elle vous semble pertinente, efficace? Alors bien sûr, il y a tout ce que vous décrivez, c'est-à-dire les difficultés pour les jeunes diplômés à accéder au marché du travail, probablement des années à venir avec, aussi du chômage en Chine, mais malgré tout, finalement, d'un point de vue stratégique, est-ce que c'est pas efficace ce qu'est en train d'engager comme transition Pékin?
Oui, bah c'est la suite logique effectivement de son développement économique depuis maintenant une vingtaine d'années. La question qui se pose, c'est que on est face à une situation qui est évidemment contradictoire, mais elle est toujours contradictoire historiquement bien évidemment. C'est-à-dire que d'un côté, on veut préserver la stabilité sociale, donc on veut pas qu'il y ait trop de tensions sur le marché du travail, mais d'un autre côté, on veut passer à cette transition qui va créer obligatoirement des difficultés sur le marché du travail. Donc on a des politiques aujourd'hui qui sont des politiques contradictoires. Dans beaucoup de régions, par exemple, on ne ferme pas des usines qui ne rapportent rien parce que on veut pas diminuer le nombre de travail, enfin le travail sur place. Faut savoir aussi que dans les provinces, les carrières des gouverneurs sont toujours liées à leur capacité à créer de l'emploi. Donc il faut à la fois qu'ils créent de l'emploi, il faut que la Chine continue à absorber de l'emploi. Il y a plus de 7 millions de jeunes diplômés maintenant qui rentrent chaque année sur le marché du travail, donc ça fait quand même pas mal de monde. Et d'un autre côté, ce grand, on pourrait dire, objectif à long terme, une espèce de contradiction entre des objectifs à long terme qui sont tout à fait compréhensibles, qui sont tout à fait bons, qui sont tout à fait intelligents, etc., rationnels, et d'un autre côté, je dirais, une situation à court terme qui est extrêmement difficile parce que il faut garantir un minimum évidemment d'emploi sur le marché du travail. Ouais. Donc la capacité va être à réaliser évidemment cette transition va aussi tenir compte évidemment de ce que disait notre intervenant sur ce qui va se passer sur la scène internationale, parce que on a beau recentrer sur l'économie chinoise est toujours quand même très dépendante. Dépendant de l'économie mondiale pour les matières premières, pour des tas de choses, et pour les exportations malgré tout. Et on compte toujours sur cette, on pourrait dire, sur cette ancienne économie d'une certaine façon pour permettre l'arrivée, l'émergence, on pourrait dire, de cette nouvelle économie. Donc c'est toujours extrêmement difficile et extrêmement difficile évidemment surtout à imaginer les conséquences qu'il peut y avoir sur la scène nationale.
Allez, toute dernière question, peut-être une réponse courte parce qu'après on recevra un nouvel invité pour se diriger doucement du côté de l'Afrique. Allez, je vais au devant d'une grosse déconvenue, je le sens, mais c'est pas grave, j'y vais quand même, Jean-Louis Rocard. Comment les Chinois regardent les problèmes de l'Union européenne? Est-ce qu'ils les regardent tout d'abord et est-ce qu'ils essayent d'une certaine manière de tirer les leçons de nos propres échecs? Est-ce que, par exemple, on est très soucieux de créer un marché de consommateurs cohérent, etc. Ou finalement, tout cela est bien loin de la Chine?
Alors, si votre question est tient à la politique, les Chinois ne comprennent absolument rien à ce qui se passe sur le plan européen, mais les Européens eux-mêmes comprennent pas grand-chose d'ailleurs à tout ça. Le Brexit, c'est quelque chose que les gens comprennent absolument pas. Enfin, on est vraiment là dans des espèces d'ovnis absolument incompréhensibles. Sur le plan économique, évidemment, les choses sont beaucoup plus claires, à la fois en Europe malgré tout et en Chine. Il y a vraiment eu un effort depuis une vingtaine d'années d'unification des marchés, de volonté de créer des marques nationales assez puissantes. Il y a toute une volonté aussi de standardiser les produits, etc. Bon, tout ça marche d'une manière assez quand même importante et radicale, ça s'améliore, mais il reste évidemment extrêmement beaucoup de choses à faire. Et, par exemple, la grande question de la sécurité alimentaire est quand même toujours patente actuellement.
Oui, la question de l'environnement est très importante pour la Chine. Tiens, voilà, toute dernière question, vraiment en quelques mots, mais les questions me viennent au fur et à mesure, mais est-ce qu'on parle de démondialisation en Chine? Il y a un débat là-dessus ou pas?
Pas véritablement. Pas vraiment. C'est pas un terme que l'on regarde.
Il n'existe pas.
Non, c'est pas un terme que l'on voit dans la dans la presse ou dans la on pourrait dire dans la presse académique et les gens réfléchissent très peu là-dessus. Par contre, ce que l'on voit c'est le recentrage. On parle beaucoup plus de recentrage, on pourrait dire, de l'économie chinoise sur le national. Juste un mot sur la lutte anticorruption qui est apparue depuis les années 2012, surtout depuis 2013. Ça aussi, c'est un élément de recentrage, hein, parce que la campagne vise surtout à dire aux fonctionnaires et aux gens qui sont à la tête des grandes entreprises publiques, attention, restez chinois, restez fidèles au Parti communiste. C'est en Chine que les choses se passent, c'est ce qui est important, alors qu'il y avait une tendance, on pourrait dire, à l'internationalisation aussi de cette élite chinoise qui avait un mode de vie de plus en plus proche, qui continue jusqu'à un certain point à avoir un mode de vie de plus en plus proche de l'élite internationale, on pourrait dire, qui se retrouve à Davos, etc.
Merci beaucoup Jean-Louis Rocard d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai votre ouvrage « Une sociologie de la Chine » qui était paru à La Découverte. Pendant de longues années, la Chine constituait ce territoire sur lequel de nombreuses entreprises implantaient leurs usines. Et puis la crise économique est arrivée, la hausse des salaires dont on parlait. La Chine, elle aussi, s'est mise à délocaliser, d'abord dans les pays de la région, le Bangladesh, le Vietnam, le Cambodge, etc. Et puis il y a eu un nouveau territoire pour ces délocalisations, c'est l'Afrique. Bonjour Jean-Joseph Boileau. Jean-Joseph Boileau, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends très bien.
Voilà, vous êtes arrivé. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, vous êtes un spécialiste des pays émergents et notamment auteur de cet ouvrage « Chine dit Afrique », donc la Chine, l'Inde et l'Afrique, qui était paru chez Odile Jacob. On a l'impression que l'Afrique, c'est devenu ce continent sur lequel les industries développent beaucoup, on monte des usines, notamment des usines chinoises. Est-ce que l'Afrique est devenue, alors je vais reprendre une formule qu'on a beaucoup utilisée, le nouvel atelier du monde. Quand on parlait de la Chine, on parlait de nouvel atelier du monde. Est-ce qu'il s'agit d'un nouveau stade de la mondialisation ou est-ce que c'est aussi finalement le signe d'une forme de modification dans le processus de globalisation qui était à l'œuvre jusqu'ici ? Comment vous voyez les choses, vous, Jean-Joseph Boileau ?
Oh non, du tout. Vous savez, l'histoire ne se répète jamais. Donc il y a eu l'atelier du monde chinois de la fin du XXe siècle. Non, il faut parler de nouvelles frontières. Je pense que pour la Chine, l'Afrique fait partie des deux nouvelles frontières du futur. C'est parce qu'il y a eu un peu trois temps dans la redécouverte de l'Afrique après les années 60. Il y a eu le besoin de matières premières lorsque l'usine du monde était effectivement vraiment en Chine. Et puis, on rentre dans une phase où, je partage tout à fait ce qui a été dit jusqu'à présent dans votre émission, la Chine ne peut pas continuer à être l'usine du monde pour des raisons internes assez largement, mais aussi pour des raisons de protectionnisme. Et donc, on a, si vous voulez, un phénomène maintenant de recherche de marché. Alors, les deux grands atouts maintenant qui sont mis en avant, c'est d'une part les infrastructures. Donc, l'Afrique est évidemment le grand continent qui a besoin d'infrastructures. Ce sont des centaines de milliards de dollars maintenant. Et la Chine veut une partie de cela. Et ce faisant, les usines chinoises vont évidemment travailler dans ces domaines-là pour le marché africain. Et deuxièmement, il y a quand même 2 milliards de consommateurs potentiels assez rapidement en Afrique. L'Afrique décolle, qu'on veuille ou non, en France, on désespère. Enfin, l'Afrique décolle, il suffit d'aller en Éthiopie, Tanzanie, Afrique du Sud, etc. Je voudrais signaler en particulier que lors du G20 là, qui est en train de se tenir, le président Xi Jinping a invité de nombreux pays africains, et en particulier, notamment, le Sénégal. Donc, il s'agit en général d'usines qui n'ont pas pour vocation à être l'atelier du monde, fondamentalement, mais qui ont pour vocation fondamentalement à servir la demande interne africaine.
Voilà, El Mahmoud, finalement, l'Afrique ne prend pas la place de la Chine il y a quelques années. C'est pas ça qui est en train de se passer.
Alors là, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Mais c'est important de le préciser parce qu'on le voit direct. Souvent.
Oui, mais ça c'est une erreur, parce que c'est pas parce que les coûts salariaux en niveau sont beaucoup plus faibles en Éthiopie ou dans certains pays d'Afrique que certaines des entreprises ont délocalisé de Chine vers que c'est significatif. Ce qui est significatif, c'est bien ce qui vient d'être dit, des investissements directs vers les secteurs des infrastructures, routes. Il y a qu'à voir en Algérie maintenant la communauté chinoise qui commence à se constituer, parce qu'en plus la main d'œuvre est importée également. Donc infrastructures, transports, télécommunications, logements, et en fait c'est lié au fait que les facilités de financement de ces investissements sont beaucoup plus élevées lorsqu'il s'agit des entreprises détenues par l'État, en Chine en particulier, que lorsqu'il s'agit d'entreprises privées occidentales purement. Donc il y a peut-être une compétition entre les entreprises européennes et les entreprises chinoises sur l'Afrique, mais il n'y a pas une substitution Chine Afrique pour que l'Afrique devienne la plateforme de production à bas prix. Non, je
compétition,
crois que...
mais pas substitution. Jean-Joseph Boileau, encore un tout dernier mot. On arrive presque au terme de l'émission, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette compétition, elle se joue aussi entre les acteurs, j'allais dire étrangers, les acteurs locaux. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que des produits chinois arrivant, des acteurs aussi, tout simplement chinois, des gens, des individus, tout ça ne fait pas que des heureux aussi en Chine. Il y a cette nouvelle concurrence provoque aussi par voie de véritables tension avec les populations, c'est difficile.
Alors, c'est un peu compliqué, parce ouais. que il y a eu effectivement, lors de l'arrivée du Made in China à très très bas prix dans les années 80, lorsque la Chine a commencé vraiment une offensive commerciale sur le marché africain, des secteurs entiers comme le textile, le cuir chaussure, etc., qui ont été fortement touchés. Ce faisant, c'était des secteurs, alors, ça va peut-être choquer certains auditeurs, mais qui étaient extrêmement peu compétitifs, peu productifs, qui étaient et largement l'Afrique importait en réalité d'Occident et en particulier de France dans l'Afrique francophone les biens de consommation. Donc la substitution s'est plus jouée de la Chine contre les pays développés. Dans la phase actuelle, là où la Chine est en train de mettre ses priorités, je dirais, là où sont ses points forts, il y a en réalité assez peu de concurrents africains. Donc là encore, c'est plutôt les groupes français, anglais, etc., qui souffrent de la concurrence chinoise, notamment dans les infrastructures. Quand Helmut a cité le cas de l'Algérie, bah, c'est évidemment les entreprises françaises qui en ont pris plein la figure. Pour l'instant, on est quand même, je sais que ça choque souvent, hein, ce win-win, on est plutôt dans un jeu gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le choc chinois en Afrique est en train d'accélérer une industrialisation de type plus efficace, plus compétitive. J'en veux pour preuve ce qui se passe en Éthiopie, ou bien l'usine automobile qui vient d'être annoncée en août en Afrique du Sud. Cette rivalité de la Chine sur le continent africain peut éventuellement être un des grands contributeurs d'une industrialisation de l'Afrique dans les années à venir, sachant que les Africains ne sont pas dupes et qu'ils font attention à jouer la concurrence entre la Chine et les autres pays. Ils ne veulent pas, notamment, que des pays comme la France quittent l'Afrique.
Merci beaucoup, Jean-Joseph Boileau. Je rappellerai votre ouvrage « Chine dit Afrique » qui était paru chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Sprung a housing bubble that increased lending, but here's the trouble. Crib after crib, they started to build, which meant the wealth of homes started to wilt. Then all of a sudden, housing prices drop. So homies making payments just stop. And foreclosures were needles. Et merci beaucoup à vous, Helmut Mohud, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai votre ouvrage Mondialisation et délocalisation des entreprises, qui était paru à la découverte dans la collection Repères. On aura très très bientôt une toute nouvelle édition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Merci d'avoir invité.
Et puis d'ailleurs, on parlera encore de démondialisation aujourd'hui sur France Culture, puisque ce soir, dans Le Grain à Moudre, Hervé Gardette recevra François Ruffin et Jean-Marc Daniel pour cette question: le protectionnisme peut-il inverser la courbe de la mondialisation? Vous voyez, c'est dans l'air du temps.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Mais pour l'heure, on reçoit Brice pour son tour du monde des idées. Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Florian.
Alors cette semaine, vous allez nous parler de la politique étrangère et de sécurité européenne. C'est le 29 juin dernier que notre haute représentante Federica Mogherini a présenté la nouvelle stratégie globale de l'Union européenne. Quelles inflexions comporte-t-elle par rapport à la ligne suivie antérieurement, Brice ?
Eh bien, l'Union européenne, d'abord, n'a pas de chance. Parce que le texte auquel vous venez de faire allusion, sur lequel Mogherini travaillait depuis sa nomination en novembre 2014, a été rendu public 4 jours après l'annonce du Brexit. La Grande-Bretagne, c'est la deuxième armée de l'Union européenne après la France. Mauvais timing. Reste qu'on constate une inflexion, comme le relève par exemple l'ancienne ministre des Affaires étrangères Anna Palacio. L'UE persiste à vouloir miser essentiellement sur son fameux soft power, tout en admettant entre les lignes que cela ne saurait suffire à garantir sa sécurité. Mais le maître mot, c'est la résilience, la capacité à réagir rapidement à une attaque d'envergure, par exemple de nature terroriste ou dans le cyberespace. Être en mesure d'assurer le retour rapide à la normale de nos sociétés en cas de crise majeure. Sur le plan strictement militaire, l'Europe continue à s'en remettre à l'OTAN, cadre principal de la défense collective. Autrement dit, nous comptons surtout sur les Américains. Or, jamais l'Europe n'a paru à la fois si menacée et si peu apte à faire face aux dangers auxquels elle est exposée. À l'Est, nul ne sait jusqu'où Poutine peut pousser l'appétit de revanche. Au Sud, l'effondrement des États, la violence et les guerres poussent des centaines de milliers de personnes à tout risquer pour aborder à la tranquille et prospère Europe. L'euro, censé faire converger les économies des États membres qu'il avait adoptées, a accru en réalité les divergences de performance. La crise migratoire a fait exploser l'Union et entraîné un rétablissement des frontières intérieures. La Commission est apparue incapable d'imposer sa politique de quotas d'accueil.
L'Union européenne n'est pas un super-État. C'est un terrain de sport avec des règles et des lois où chaque pays cherche son intérêt et donc rentre en conflit avec les autres et avec l'Union.
C'était Viktor Orban, on l'a reconnu, le dirigeant hongrois. Du coup, les opinions en quête de sécurité poussent les dirigeants à se replier sur l'espace qu'ils contrôlent, celui des États-nations. Pour Jakub Grigel, qui signe un article sur le sujet de ce mois-ci dans la revue américaine Foreign Affairs, mieux vaut encore des États-nations assurés de même qu'une Union européenne impuissante du fait de ses divisions internes. Pour l'action extérieure, l'UE, soft power, qui n'est jamais parvenue à définir une politique réellement commune, ni à se doter des moyens de la puissance, en particulier militaire, s'en est remise à l'attrait que représente son immense marché intérieur. Elle croyait pouvoir pacifier son voisinage par le simple fait de sa puissance commerciale, mais la crise ukrainienne et la crise migratoire ont montré les limites de cette stratégie. Les gouvernements les plus accueillants ont été perçus par une partie de leurs opinions comme privilégiant les étrangers à leurs propres citoyens, d'où une perte de légitimité, comme l'écrit Jakub Grigel. Durant deux décennies, l'Europe a pu poursuivre de nobles ambitions comme dissoudre ses frontières intérieures. Parce qu'elle n'était pas confrontée à des défis de sécurité à présent, que les dangers sont de retour et que l'UE s'est montrée incapable d'y faire face, les leaders nationaux doivent remplir leur devoir moral basique, défendre leurs concitoyens. Fin de citation.
Est-ce la cause du Brexit, Brice? Est-ce qu'on a une idée du résultat auquel un tel référendum aboutirait s'il était organisé chez nous?
Eh bien oui, le Brexit enregistre en réalité la défaveur où est tombée l'UE parmi les peuples qui la composent. Et pour répondre à votre question, relevons que selon le dernier sondage mené en Europe par le Pew Research Center, si un tel référendum avait lieu dans d'autres États membres, eh bien le résultat serait souvent plus négatif encore. Il est donc erroné d'y voir la manifestation d'une aversion ordinaire des Anglais pour l'intégration européenne. Il se passe quelque chose de nouveau. On relève ainsi que l'hostilité à l'UE est plus marquée en France qu'au Royaume-Uni. 44% des Britanniques émettaient un avis favorable sur l'Union à la veille du référendum, contre 38% seulement des Français. Chez nous, la politique migratoire de Bruxelles est désapprouvée par 70% des sondés, contre 26% qui la soutiennent. Et la politique économique européenne fait l'objet d'un rejet équivalent, avec 66% qui la désapprouvent, contre 27% qui l'approuvent. On relève en passant que la Pologne, pourtant gouverné par une équipe franchement eurosceptique, demeure le pays où l'adhésion à l'UE demeure la plus élevée.
Merci beaucoup Brice, on vous retrouve pour la suite de ce tour du monde des idées demain vers 11h53 dans Culture Monde depuis cette nouvelle saison. Dans un instant sur France Culture, c'est La Grande Table avec Olivia Gesberg, mais juste avant de la retrouver, maintenant c'est plus du tout La Vie Moderne, c'était avant La Vie Moderne, voilà maintenant c'est Olivia Gesberg tout de suite dans un instant sur France Culture. Très belle journée, à demain.